Stop, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
La bonne réponse.
Il est 9h41, vous êtes sur France Inter et c'est le dernier instant M de la semaine.
Bonjour à tous et bon dimanche.
Ça reste la référence, mais je regarde jamais la télé.
4 secondes exactement, parce que nous sommes en direct.
Ce matin, il sera question de télévision, de miroir, de narcisse, de voix, de star, d'image au sens propre et au sens figuré, de darwinisme, de promesses, de gloire, d'oubli, de The Voice, bien sûr, mais aussi de photographie et de Star Academy.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Et j'accueille Nikos Aliagas en personne. Bonjour Nikos.
Bonjour Sonia, content de vous retrouver.
L'homme de The Voice qui revient samedi soir en prime time sur TF1. Pour commencer, Nikos, petit jeu du vendredi en partenariat ce matin avec nos amis de l'excellent magazine SoFoot qui ont publié un hors-série de 500 pages retraçant la saga Maradona. C'est un bijou, il est toujours en kiosque, mais nous, on vous l'offre. Mon adresse, vous la connaissez, l'instant M en un seul mot, @radiofrance.com. Voici ma question, évidemment Nikos, interdiction de voler la vedette aux auditeurs de l'instant M. La chanteuse Emma Domas, candidate de la Starac, Star Academy, double question ce matin. À quelle saison a-t-elle participé et contre qui a-t-elle perdu ? J'espère que vous m'avez pas regardé en vidéo parce que Nikos vient de mimer la réponse.
J'ai oublié les caméras. Mais oui,
tu seras chanson adorée d'Anne-Cécile Perrin, ma réalisatrice.
Elle sort un nouvel album. Bientôt.
Et de Marion Philippe qui prépare cette émission. Voilà. Emma Domas, à quelle saison de la Starac a-t-elle participé et contre qui a-t-elle perdu? L'instant M @radiofrance.com. Votre jeunesse, justement, Nikos, parlons-en juste quelques instants. La Starac, vos débuts d'animateur, est-ce que vous vous êtes revu?
Pas récemment, quand ils font des émissions spéciales un peu de nostalgiques sur ce qu'était à l'époque de Jennifer ou de Grégory, je me revois. Je me reconnais pas toujours, mais en même temps c'est intéressant d'assumer ce qu'on a été et ce qu'on devient en chemin.
Qu'est-ce que vous faisiez comme animateur télé à l'époque que vous avez gommé aujourd'hui ou que vous avez perdu, parce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins volontaires dans la façon de faire évoluer son métier?
J'ai perdu quelques cheveux, mais surtout je faisais l'animateur.
C'est-à-dire ?
Quand on arrive sur un plateau de télé, moi c'était pas mon métier d'être animateur, j'étais encore journaliste lorsque Étienne Moujotte m'a appelé.
C'était le patron des programmes de TF1 à l'époque.
Effectivement, j'ai voulu prouver que je savais animer, c'est-à-dire être ambianceur, occuper l'espace, trouver un ton, projeter ta voix, faire des vannes, des trucs terribles. C'est-à-dire que quand on commence à écrire des vannes en préparant une émission, c'est le début de la fin en général. Je ne sais pas le faire. Certains le font très bien. Je suis pas un amuseur né. C'est-à-dire que j'étais pas un ambianceur de soirée dans ma jeunesse qui savait jouer avec des ficelles.
Donc vous avez quoi ? Épuré tout ça en réalité avec les années ?
On ne garde que l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu as un cahier des charges éditorial à défendre. Tu sais pourquoi tu es là, de quoi parle ton émission. Et surtout, tu accompagnes. Et je me souviens d'un des directeurs de l'époque de TF1, qui s'appelait Franck Firmin-Guillon, qui est patron maintenant de l'ITV, qui me disait « Arrête d'en faire trop, parce que devant l'ascenseur, quand tu vois ton voisin le matin, ton voisin de palier, le gars, il commence à faire des grands écarts, à balancer ses fiches, à faire « Hey, ça va ? Bonne journée !» Bah, c'est pareil à la télé, tu accompagnes les gens. Et ça s'apprend.
Quel rapport vous avez avec votre image? Votre image à vous, Nikos? La télé, ça fait quoi à l'image de soi? Est-ce qu'on se sent beau? On se sent aimé tant qu'on y a du succès? Est-ce que narcissiquement, on en prend plein les dents quand ça s'arrête, j'imagine. Comment ça se combine, l'image qu'on a de soi et 20 ans, plus de 20 ans de carrière à la télévision?
D'abord, ça n'est pas mon image, ça n'est pas moi, ça n'est pas ma projection intime, introspective. C'est le monsieur de mon travail. C'est un malentendu de toute façon. La première fois que je me suis vu réellement très populaire, entre guillemets, je le dis avec beaucoup d'humilité, je l'ai compris dans les yeux des autres, parce qu'ils me regardaient différemment. Mais il ne me regardait pas comme moi je peux me percevoir en tant que personne, mais comme une image qu'on a vue à la télé. Comme s'il me regardait à travers la petite lucarne. Et là, je me suis dit, c'est un malentendu. Une autre fois, à l'époque de Christine Bravo, on m'a demandé...
Très joli d'utiliser le mot malentendu alors qu'on parle de regard.
C'est un malentendu. C'est un malentendu. Je vais vous donner un exemple. Et je l'ai compris assez vite, en fait. J'ai pas été dupe là-dessus, sur le narcissisme, et c'est génial. Je finis par croire ce que les autres voient de moi. Là est le piège. Je suis dans une gare, il est 6h du matin, à Bordeaux, fin des années 90. À l'époque, je suis le chroniqueur grec de Christine Bravo. On me demande si je suis le gars de Christine Bravo. Et j'ai dit oui, oui, 6h du mat, avec un petit café. Et le gars me répond, mais arrête, tu te prends pour qui, c'est pas toi. Et en sortant de la gare, je me suis dit, on m'a demandé si j'étais moi. J'ai répondu par l'affirmative, mais on ne m'a pas cru. Conclusion, ouais, ça n'est plus moi. C'est ne ça. T'attache pas à ça. C'est ton métier, c'est le monsieur du travail, comme je dis à mes enfants.
On va parler de The Voice, hein, évidemment, qui revient samedi soir sur TF1. On va opérer un petit détour par la photographie, l'actu par l'image à la radio, pourquoi pas. En ce moment, chaque vendredi, l'Instant M a proposé à la revue de photographie Polka de choisir la photo de la semaine. Bonjour Léonore Mattet.
Bonjour Sonia.
Vous êtes iconographe à Polka et vous avez choisi pour nous une photo prise il y a quelques jours devant l'ambassade de Birmanie à Bangkok, en Thaïlande. On est juste après le coup d'État en Birmanie. Splendeur et misère d'une icône.
Oui Sonia, cette photo, elle a été prise par un photographe thaïlandais de l'agence Reuters qui s'appelle Atit Perawong Mehta. On y voit un manifestant qui enserre dans ses bras un photomontage représentant Aung San Suu Kyi derrière des barreaux. L'image traduit un sentiment d'affection et de solidarité envers la militante birmane. Et le cadrage est très serré sur le buste du manifestant. On ne voit pas sa tête, on ne peut pas situer la scène dans l'espace. On focalise toute notre attention sur le portrait d'Aung San Suu Kyi qu'il tient contre son cœur.
Et du rouge, il y a plein de rouge dans cette image.
Et c'est le rouge qu'on retrouve sur le t-shirt porté par le manifestant.
Ouais.
C'est la couleur de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi. Mais aussi, c'est la couleur de la passion, de l'amour, de l'interdiction, du sang et du danger. Quant au portrait d'Aung San Suu Kyi, on a le sentiment de l'avoir vu des dizaines de fois, tant le regard frontal, aussi tendre que sévère, celui d'une femme chef de gouvernement, nous semble familier. La dame de Rangoon, figure de pureté et de grâce, a été portraiturée par des photographes de renom, comme Platon ou Steve McCurry.
Voilà, photographe de renom qui s'appelle Platon. C'est en 2017 que l'image d'Aung San Suu Kyi se ternit, Léonore, lors des exactions de l'armée birmane envers les Rohingyas.
Souvenez-vous, Sonia, des images de ce drame qui arrivait jusqu'à nous et qui montrait des flux incessants de population, des gens démunis, des gens affaiblis qui se déplaçaient dans des conditions inhumaines. Des photojournalistes du monde entier sont allés documenter ces scènes glaçantes. Mais l'inaction de Mother Sue, comme la surnomment les Birmans, face aux accusations de génocide, a brisé l'icône, effigie de la démocratie.
C'est ça. Et en fait, ce qui est paradoxal avec son arrestation, c'est qu'elle retrouve un peu de son aura originelle.
Qui est celle de l'opposante face à la junte militaire, au moment où elle est à nouveau enfermée, comme sur la photo qu'on a choisi de vous montrer aujourd'hui. En fait, on pourrait dire que c'est une femme qui a été otage toute sa vie, une otage consentante prise dans les mailles de son symbole. Et depuis quelques jours, on peut voir passer beaucoup de photos qui montrent les rassemblements de soutien. Elle redevient l'incarnation de sa propre représentation, celle d'un drapeau brandi aux couleurs de la liberté.
Merci Léonore. La revue Polka est en kiosque. Allez jeter un coup d'œil sur le site du magazine aussi. Il fourmille de textes et d'images, d'histoires de photos et de photographes. C'est l'une de vos grandes passions, Nikos Aliagas, la photo. Vous l'avez beaucoup médiatisée, vous beaucoup partagée.
Oui, avec... j'espère pas trop, justement. Mais
pourquoi?
Bon, par la force des choses, parce que je l'ai pas fait pour ça. Mais comme, effectivement, j'ai un métier aussi public de par la télévision, ça intéresse les gens.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est pour moi une démarche beaucoup plus personnelle et beaucoup plus, on va dire, cathartique.
Une prochaine exposition?
Bientôt, dans quelques mois, à Paris, en collaboration avec la mairie de Paris, justement avec l'Hôtel de Ville.
Dont vous avez signé la carte de vœux.
Exactement.
Le pigeon, la scène.
Le pigeon, l'envol. Donc voilà, je prépare un autre regard sur la partie féminine de Paris.
Voilà, voilà. Quand les musées rouvriront.
J'espère.
Ça fait tellement. Très envie.
Quand un bambino ci taglio poi la via, con un tamburo di latte e una scia, e poi quel suono rimbalzo su di noi, io ti amo, il mio rifugio, il mio rifugio, il mio rifugio.
Je suis sûr qu'elle a tout.
C'est tout.
Ah ouais. C'est sûr, parce qu'après là-haut.
Poi ti stringesti forte.
Voilà, moi j'ai déjà une passion pour Richard Cochian. Ça, je l'assume souvent dans cette émission.
Vous avez le frisson ou pas, Sonia?
Ah là, mais totalement. Mais
direct.
Totalement. Moi, j'ai, donc TF1 m'a permis de voir le premier épisode
vous avez
de The Voice.
Génial.
Voilà.
Génial.
Et ben, ça, coup de cœur. Elle s'appelle Jihad. Elle a une
Bravo.
Trentaine d'années. On sent qu'elle a un peu de maturité.
Mais c'est pas son métier,
ans.
Surtout. Ouais. Elle n'a jamais chanté sur une scène. Elle a été serveuse. Elle a galéré, elle a des problèmes comme tout le monde dans la vie. Elle regardait l'émission de télé, d'autres émissions, elle se projetait. Et puis là, c'est son moment. T'as rendez-vous avec ton destin, d'une façon ou d'une autre.
Voilà, bon, nous, c'est notre petit coup de cœur.
Ah ouais, mais elle chante vraiment bien.
Ingrédient clé pour une nouvelle saison, et ça provoque des débats, des remous, des critiques,
quoi donc ?
Etc. Le jury. Ouais. Alors, le jury, cette fois-ci, ça commence samedi soir.
Les coachs.
Florent Pagny, le retour, les coachs, exactement, on les appelle les coachs.
Non,
le jury, parce qu'en réalité, dans toutes ces émissions, le jury est clé. Vous, c'est les coachs, en effet. Donc, Florent Pagny, c'est le retour. Vianney, c'est le petit nouveau.
Ouais.
Amel Bent, c'est la drama queen dont on connaît l'efficacité. Et Marc Lavoine, c'est le parrain, évidemment. Ça va devenir culte comme réplique.
Réfléchir, ça empêche de penser. Il faut toujours rester sur la pensée qu'on a d'une chanson. Vous savez, les mots ont du caractère, c'est comme les chevaux, il faut monter dessus. Il faut les laisser cavaler, mais il faut galoper avec eux. Et c'est vraiment merveilleux la façon dont vous le faites. Est-ce que vous aimez Vianney ?
Oui.
Je le ressens un petit peu quand vous chantez. Essayez d'oublier vos références pour vous retrouver vous-même, totalement. Vous avez 17 ans, et c'est normal, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Mais ce que vous faites, c'est sérieusement bien.
On s'est dit avec mes camarades qu'on aurait pu fabriquer des medleys avec les poncifs. Forcément,
ouais.
Elles sont difficiles à trouver, ces formules,
bien
à
sûr.
Chaque fois.
Il n'a pas de formule toute prête, évidemment, Marc Lavoine. Et il ne vient pas à la télé dans une posture télévisuelle. Il est comme ça dans la vie. Quand c'est pas effectivement une réflexion un peu plus sociétale, philosophique ou des blagues, c'est surtout la volonté de dire au talent qui est en face de lui, je fais pas de télé moi. Je suis là vraiment pour t'accompagner. Il y tient, Marc Lavoine. Nous, on l'appelle le président.
J'avais dit le parrain, voilà, j'étais pas très loin. Le jury The Voice s'est souvent fait critiquer ces dernières années. Vous vous en avez vu passer, mais alors tout un tas dans les différentes émissions de ces 20 dernières années. C'est quoi un bon juré à la télé ? Parce que c'est un exercice à part entière. C'est pas forcément un très grand musicien ni un très grand chanteur. Un bon juré, c'est aussi une fonction à la télé, un personnage de télévision.
C'est quelqu'un qui peut avoir le temps d'un échange, la capacité à comprendre la démarche d'un artiste en face de lui. Un bon coach, à la base, ne juge pas, il accompagne. Il n'est pas là pour dire, bon, voilà, t'as fait ça. Il peut accompagner.
Ça, c'est dans la vie, Nico Saliegas. Ouais. À la télé, il faut faire le show. Le juré, il est aussi là pour fournir... il est un ingrédient du spectacle.
L'émission est un show, de par sa structure et de par sa mécanique. Mais si le rôle est écrit... Aucun des coachs n'a d'oreillette, aucun des coachs n'a de formule ou de fiche pour apprendre des phrases. Si le rôle est écrit, ça ne marche plus. Si ça dure depuis 10 ans, c'est parce que chacun est singulier, parce que Florent Pagny, à un moment, il dit, comme on l'a entendu sur la prestation de la chanteuse italienne, je suis sûr qu'elle a tout. C'est-à-dire qu'elle est à la fois belle, qu'elle
Et Vianney, il s'en sort bien, hein, comme.
Mais Vianney, moi, je l'ai découvert. Je veux tout vous dire. Vianney, on le connaît comme un garçon bien sur lui.
C'est ça.
Auteur, compositeur, vraiment génial. Un jeune Souchon. Il remplit des salles, il n'a pas besoin d'être surfait, il prend sa guitare, son jean, il envoie. Et là, j'ai vu un gamin qui est une machine de guerre, qui réfléchit très vite,
qui trouve des mots
instinctif, qui est rock'n'roll, qui peut péter un siège.
Et
aussi.
Votre rôle à vous, Nico Saliegas, là, vous qui êtes privé de public, parce que justement, votre partition à vous, elle tenait beaucoup, et c'est votre manière à vous de l'interpréter, cette partition, de la jouer dans les relations avec les familles, dans les relations avec le public. Vous en êtes privé, tout passe par des écrans, il y a une très jolie mise en scène qui a été faite. Comment vous le réécrivez, ce rôle-là ?
D'abord, je suis aussi un accompagnateur. Un animateur dans The Voice, et en l'occurrence ma pomme, je suis jamais arrivé aux premières loges en disant bonsoir à tous. On fait pas la salle. On commence en coulisses pour arriver dans la lumière, mais pas seul, avec les talents. Eh bien, je fais exactement la même chose. Sauf que maintenant, les familles, je les ai chez elles par Zoom, par Skype, et on discute. Et que ça crée une autre proximité avec celui qui ne connaît rien à la télé, qui à un moment peut douter derrière la scène, comme on l'a eu avec Marie, qui dit « moi je vais rentrer chez moi, j'en peux plus ». Je dis « mais viens avec moi, si t'es arrivé là, t'as fait le plus dur, on peut aller ensemble ». Donc je suis un peu accompagnateur.
Il y a cette espèce de mise en abîme où vous dialoguez à travers des télévisions et des écrans, et nous on vous voit à la télévision et à l'écran. Il y a une espèce d'écran dans l'écran comme c'est ça, qui est un peu la nouvelle grammaire.
C'est l'époque qui veut ça, vous avez raison, mais ça n'enlève pas l'essentiel. le lien.
Oui.
Le lien est plus fort que la mise en scène. Et j'y crois. Le lien, à un moment, devient beaucoup...
Enfin, il a fallu qu'on réapprenne, nous tous. Hein.
On n'avait pas le choix.
On n'avait pas le choix.
Sinon, on serait resté chez nous. Et même pour enregistrer une émission comme ça, il a fallu faire beaucoup de sacrifices au niveau sanitaire et au niveau... Voilà, il a fallu prendre
des dispositions. C'est un gros barnum, hein, c'est 200 personnes.
Mais c'est l'humain qui fait la différence. Je l'espère, en tout cas.
Je vous fais écouter Mentissa.
Yes.
I gotta tell them to myself.
Ans de télécrochet, la Starac et aujourd'hui The Voice. Il y a ceux qui ont percé, ceux qui sont restés, ceux qui ont duré, ceux qui se sont réinventés. Quand on réfléchit, il y en a beaucoup qui sont restés sur le côté aussi. Ça laisse songeur. Je trouve ça intéressant parce que au démarrage de ces nouveaux programmes, on leur a beaucoup reproché d'être des miroirs aux alouettes, de donner l'illusion qu'on peut naître à la chanson en quelques semaines. En réalité, ces artistes, ils ont tous bénéficié de tremplins incroyables, d'une visibilité et tout ça. Mm-hmm. Mais derrière, le darwinisme, l'élimination, elle a été terrible, elle a été quand même faite pour toutes les générations d'artistes, même, non ?
Mais c'est vrai à la fois pour les journalistes, les animateurs, les chanteurs qui ne passent pas par The Voice ou par la Starac ou par d'autres programmes. C'est qu'à la fin, de toute manière, tu es de passage, c'est le postulat de départ, et qu'à la fin, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Pour autant... Il suffit de constater qui on a autour de nous aujourd'hui et qui passe à la radio, qui est invité chez Inter, qui passe à la télé, même dans d'autres émissions. Et c'est la génération qui est passée aussi par The Voice. C'est pas seulement un miroir aux alouettes ou un miroir déformant ou un miroir, on va dire, qui rend encore plus beau. C'est un lieu de passage, c'est un studio The Voice.
Et quand vous dites c'est un lieu de passage, en effet, c'est-à-dire que c'est peut-être même encore plus cruel pour eux, les candidats de The Voice et les anciens candidats de... parce que chaque année, chaque saison, il y en a 10 nouveaux sur la ligne de départ.
Oui, mais tout le monde ne part pas.
Qui viennent les pousser dehors.
Mais non, pas nécessairement. Quand Slimane, effectivement, l'un des grands talents de The Voice, gagne, non seulement il fait son chemin, mais il va aussi appeler les autres. Claudio Capeo n'a pas gagné. Louane, que vous aimez particulièrement, et qui a été invitée justement ici quand elle avait sorti son film, et qu'elle chantait justement Michel Sardou, n'a pas gagné de Voice. Je peux vous en citer, il y en a plus d'une dizaine. En 10 ans, sortir une vingtaine d'artistes qui font partie du décor et qui de toute manière vont évoluer ensuite. Et puis soyons un peu honnêtes. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde ? En vérité, quand on commence avec 10 000 candidats et qu'on arrive avec 150 candidats et qu'ils vont arriver, les talents, les 150, est-ce qu'on peut avoir 150 artistes chaque année ? C'est pas possible.
Ouais.
On en a un. Parfois, on peut gagner et ne pas faire de chemin aussi. Ça marche aussi dans les deux sens. Ça dépend. Nous, on est juste le prétexte. On vous donne la possibilité, on vous met dans la lumière, on vous accompagne, on le fait avec sincérité. Après, envolez-vous. Après, il y a les maisons de disques, les producteurs, il y a la scène, et puis il y a le public.
Et il y a TF1, samedi soir, en prime time, retour de The Voice. J'ai encore plein de questions à vous poser. Vous reviendrez pour la finale, et comme ça, on continue
avec
cette discussion.
Avec grand plaisir, j'adore.
Super. Merci, Nico Saliaga, c'est la fin de cette émission. Alors, il faut quand même que je vous donne la réponse au jeu. Emma Domas, saison 2, elle a perdu contre Nolwenn Leroy. Évidemment, Nico
Saliaga, qui est toujours là. Et les deux, on en parle encore aujourd'hui, les deux.